Bien. Heureux de vous saluer. Bon, c'est vrai qu'on vient de se réjouir avec Marie-Bénédicte. Hein. Et je souhaite qu'on soit tous des bénédictes, des sources de bénédiction, c'est vrai. Hein, ça va. Merci Seigneur. Mais on n'est pas obligé d'aller à Tahiti. Hein, pour... Haïti. Et on s'attriste aussi, ben oui, pour ceux qui sont dans le deuil. Ça, c'est la vie de famille. Il y a des sujets de joie, des sujets de tristesse. Mais ce matin, j'espère que vous avez profité de l'occasion de ce temps de louange, vraiment, pour ouvrir vos cœurs, dire à Dieu qui est vraiment un Dieu merveilleux, sa grandeur, sa majesté, l'amour qu'il a pour nous. Vraiment, on est unique à ses yeux. C'est quelque chose de, hein, c'est bien de s'abandonner vraiment à la présence de Dieu, hein, dans ce lieu. Et c'est vrai que c'est important de rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, hein, qu'on se réunit. Et j'espère, refermez pas vos cœurs, hein, vous les avez ouverts pour exprimer, hein, laisser s'échapper cette bonne odeur de louange et d'adoration. Mais ne refermez pas, parce que maintenant, Dieu, il va émettre, hein, quelque chose par sa parole. Hein, il va vraiment, hein, je pense, il va parler au cœur de chacun. On est là aussi pour ça, pour écouter. Non, pas, c'est pas Guy que vous écoutez, c'est, hein, la parole de Dieu, ce que Dieu a mis à mon cœur de partager, mais, hein, c'est quand même important. Et vous savez que il est dit que Dieu a fait l'homme à son image, mais on dit aussi que l'homme, hein, il le lui a rendu parce que l'homme a fait un dieu à son image souvent. Et c'est vrai qu'on a du mal à se représenter, hein, ce qu'est Dieu en fait. Et d'ailleurs, chacun se fait son dieu souvent. C'est ça le problème d'ailleurs. Comment représenter un Dieu qui est hors de l'espace, hors du temps, hein, il est partout, il voit tout ce qui se passe en même temps. Hein. Il entend tout ce qui se dit dans les lieux les plus secrets. Hein. Un Dieu qui vraiment, il peut tout, il est tout puissant. Vous connaissez ce psaume, hein, donc 139 qui, hein, qui nous dit là. On n'a pas encore exprimé notre pensée que déjà Dieu connaît. Hein. Tu me sens, tu me connais. Avant que j'ai ouvert la bouche, Éternel, tu sais déjà ce que je vais dire. Où pourrais-je aller loin de ton esprit, hein, où pourrais-je, hein, fuir hors de ta présence? On connaît ce psaume là. Hein. C'est quelque chose de magnifique. Donc, et ça, c'est le Dieu qu'on aime, c'est le grand Dieu que l'on prie, c'est le grand Dieu qu'on adore. D'accord? Donc, faut pas chercher à comprendre, des fois. On a une intelligence qui est très limitée parce que ça nous dépasse. Ça nous dépasse. On peut pas comprendre au sens de prendre avec. Comprendre, c'est prendre avec. Avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, avec nos moyens. Vous savez, celui qui comprend, il a déjà une maîtrise sur les choses. Il a une maîtrise sur les gens. Il comprend. Hein, parce qu'il a du recul. Mais avec Dieu, en tant que créature, on ne peut pas comprendre le créateur. Le contenu est plus petit que le contenant, c'est évident. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé moi ce message, donc, au-delà du naturel, hein, et comme sous-titre, prendre sans comprendre. C'est-à-dire, je vais vous inviter ce matin à prendre tout ce que Dieu veut nous donner, mais sans chercher à comprendre si c'est possible, comment c'est possible, ni chercher à comprendre comment il va le faire. Et d'ailleurs, Dieu ne nous demande pas de comprendre, de tout comprendre. Vous savez, tous les mystères de la parole révélée, on ne pourra pas tout comprendre. Il est dit que nous connaissons partiellement, donc en fait, on ne comprend que partiellement. D'accord ? Et vous savez, le jour où on a dit oui à Dieu, c'est pas parce qu'on a tout compris, c'est parce qu'on a été touché par l'amour de Dieu. Hein, touché. Hein, vous savez que le jour où un homme ou une femme rencontre, hein, la personne bien-aimée, commence pas à dire il a telle qualité, on fait la liste, il a tel défaut, on fait la liste, on fait le plus, on fait le moins, donc je l'aime. C'est pas comme ça que ça marche. Ça passe pas par le cerveau, c'est pas un raisonnement mathématique, c'est le cœur qui est touché. Ben Dieu, c'est pareil, Dieu, il parle au cœur d'abord et avant tout. Il parle pas à notre intelligence, d'accord ? Et pour ça, donc, eh bien, il nous a donné la foi qui nous permet justement, eh bien, donc, d'avoir cette ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on voit pas. Donc, en fait, faut marcher avec Dieu, faut marcher par la foi, c'est sûr. Convaincu que ce qu'il a dit c'est vrai, convaincu que ce qu'il a promis il va le faire, il est fidèle, ça c'est important. Donc, il faut rejeter cet esprit cartésien qui fait qu'on ne considère comme vrai que ce qui est logique, comme vrai que ce qu'on peut démontrer, comme vrai que ce qui est que l'expérience nous enseigne et tout. Donc rejetons cet esprit cartésien et donc entrons dans cette réalité de qui est Dieu avec une vision de foi. Bon, ça c'était mon introduction parce que maintenant on va demander au Saint-Esprit parce que voilà, c'est le sujet qu'on va traiter. Hein, que Saint-Esprit nous aide vraiment à rentrer dans cette vision-là. Hein. J'invite à quelques instants à prier parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire son travail donc au-delà de ce que je vais vous dire. Seigneur, nous te prions encore ce matin pour que nous puissions avec l'enseignement et donc ce que le Saint-Esprit va nous révéler à notre cœur, que nous puissions nous approcher davantage encore, comme on l'a chanté, de te connaître davantage, Seigneur. C'est vrai, tous les chants ce matin nous montraient déjà ta grandeur. Hein, on a déjà été sensibles, Seigneur, à qui tu es à travers de cette louange, mais Seigneur, que ta parole nous emmène encore un peu plus loin. Que ton Saint-Esprit parle au cœur de chacun et que le Saint-Esprit m'aide aussi, moi, à donner à cet enseignement toute la portée, la puissance et la conviction, Seigneur, qui est capable de faire grandir, de stimuler la foi de chacun de nous, Seigneur. Je te le demande, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on va lire dans 1 Corinthiens, un passage, 1 Corinthiens 2. Je vous invite à prendre avec moi 1 Corinthiens 2, même si. Il y a quelques versets qui s'affichent, mais on va lire tout le passage. On va lire donc à partir donc 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, Paul est en train de parler de la sagesse de Dieu, qui a été donnée non pas aux grands de ce monde, non pas aux gens du monde, mais aux chrétiens, qui a la vie de l'Esprit en lui, qui est capable donc de pouvoir rentrer dans cette sagesse. Et donc, on va prendre maintenant, rapidement, on va voir différents domaines dans lesquels on va essayer de voir la façon dont Dieu veut se révéler à nous. Voyez, on va passer en revue différents domaines. D'abord, au-delà de l'invisible, au-delà de l'audible, au-delà de nos pensées, au-delà de nos besoins, au-delà de nos attentes et au-delà de nos possibilités. Ça paraît beaucoup, mais il y a des points, je vais m'étendre un peu plus, d'autres, ça sera plus rapide. Mais c'est quand même important. Bon, c'est peut-être pas exhaustif. D'abord, au-delà du visible. On doit apprendre à voir l'invisible. Bon, c'est sûr que nos organes des sens, en général, sont sensibles à ce qui se voit, à ce qui s'entend. Mais la réalité du spirituel, c'est pas parce qu'on voit pas qu'elle n'existe pas. Rappelez-vous ce passage, ce qui est en 2 Rois 6, c'est le prophète Élisée. Il y a l'armée syrienne là qui a pris position, donc ça se trouve à Dothan, et qui cherche à se saisir de l'homme de Dieu. Et il y a tous les chars qui sont là, ils se sont installés de nuit. Et le matin, quand au réveil, le serviteur d'Élisée, il voit tous les chars, il est paniqué. Hein, et au verset 15 du 2 Rois 6, il est mis, le serviteur du prophète dit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élisée. Donc, Dieu avait disposé les forces. Le serviteur ne voyait pas, Élisée savait. Eh bien, prions ce matin, nous, Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir, nous, que tu es là à nos côtés, qu'on puisse voir qu'effectivement, tu nous gardes, tu nous protèges, que tu marches avec nous. Donc, on doit apprendre à voir avec le regard de Dieu. Ça, c'est important. Et autre illustration, Samuel. Vous savez que Samuel est envoyé par Dieu auprès d'Isaïe pour trouver quelqu'un qui va remplacer le roi Saül. Et Isaïe fait défiler tous ses fils. Et chaque fois, Dieu dit non, c'est pas lui que j'ai choisi. Il va même dire, lorsque le premier Éliab se présente dans toute sa prestance et tout, Dieu va dire à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Vous connaissez ce verset, 1 Samuel 16, 7. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bon. Et c'est vrai que nous, on regarde ce qui est visible, c'est logique, c'est normal. Et quand c'est beau, ben, on se réjouit et il y a des belles choses à voir. Mais le problème, c'est que quand les circonstances sont un petit peu inquiétantes, quand ça va mal, eh bien là, on a tendance un petit peu donc à perdre courage, on a tendance un peu à s'affoler. Donc, il faut apprendre à voir les choses comme Dieu le voit, hein, le regard de Dieu. Sur les circonstances d'abord, et c'est vrai qu'on l'a rappelé ce matin même, hein, Dieu est souverain. Donc, rien n'échappe à son regard, et il fait que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Donc, les circonstances, Dieu y maîtrise, il n'y a pas de problème. Et aussi les personnes, après. Parce que si on arrivait à voir les personnes comme Dieu les voit, dites-vous que cette personne que vous n'aimez pas ou à qui vous avez des problèmes, Dieu l'aime, Dieu veut que cette personne le connaisse. Hein. Donc, méfions-nous, gardons-nous de tout jugement, parce que déjà, on ne connaît pas le passé de cette personne, et surtout, on ne peut pas lire ce qu'il y a dans le cœur. Dieu, il peut lui. Donc, déjà pour nous, méfions-nous. Donc, apprenons à regarder comme Dieu voit. Ça, c'est important. Et ensuite, en voyant l'invisible, on va pouvoir accomplir l'impossible. Je m'explique. Parce qu'au lieu de voir simplement tout ce qui ne va pas, la situation qui nous sommes, on va mettre devant nous les projets de Dieu et ça va nous dynamiser, ça, en fait. Hein, Dieu a fait dire par la voix de son prophète, Osée 4-6, « Mon peuple périt faute de connaissance ou par manque de vision. » Et c'est vrai, comment voulez-vous aller de l'avant si déjà vous savez pas où vous êtes? Si vous savez pas où vous allez, vous êtes comme un aveugle qui voit pas, il va tâtonner, il va trébucher, il va se prendre les pieds, il va chuter. Vous êtes comme aussi, un automobiliste, là, s'il prend la route le soir, s'il allume pas ses phares, il va pas aller loin. Donc, et nous, on a cette parole de Dieu, dans le psaume, 119 que vous êtes en train de mémoriser. Verset par verset, j'espère. Il est mis donc au verset 105 que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, donc une lumière sur notre sentier. Et c'est vrai qu'elle nous permet de voir où on va, de savoir où on met les pieds, pour marcher en toute sécurité, être motivé, être enthousiaste. Et on sait qu'on va vers la cité céleste. Bon, c'est là qu'on va, on le sait. Donc c'est un projet que Dieu a pour nous et c'est bien de le savoir. Et vous savez, quand on regarde, et on invite à tourner les regards vers Jésus, vers le ciel, vers cité céleste. Beaucoup de choses vont prendre ça va se relativiser beaucoup de problèmes, en fait. Parce que ce que considère important, finalement, ça n'aura plus tellement d'intérêt. Et même ce qui nous suscite parfois, qui nous attire et qui est objet de convoitise, on va prendre du recul. Il est dit, c'est Paul qui le dit, donc en 2 Corinthiens 4, 18, nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Les réalités visibles ne durent qu'un temps, les invisibles demeurent éternellement. Donc, soyons conscients du côté futile, éphémère de certaines choses là que le monde nous propose parfois. Et entrons dans ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, ça c'est important. Et donc, demandons à Dieu, et ça je le redis, j'insiste, de soigner notre cataracte spirituelle, enfin j'appelle ça comme ça, selon Éphésiens 1, 17, 18, je prie Dieu, c'est Paul qui en fait une prière, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître pour qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, marchons par la foi et non par la vue. Et je vous pose la question maintenant. Et posons-nous la question, sur quoi fixons-nous nos regards? Est-ce que c'est la situation d'un monde qui va mal autour de nous et qui n'est pas très encourageante parfois ou alors sur notre condition à nous, sur nos faiblesses, nos impossibilités, nos limites, nos déceptions? Ou alors est-ce qu'on fixe nos yeux sur les projets de Dieu, cette réalité du royaume de Dieu dans lequel nous faisons partie, auquel nous appartenons, et donc un royaume qu'on ne voit pas, mais qui est présent. C'est important. Et proclamons qui nous sommes en Jésus. Eh oui, parce que faut pas se laisser obscurcir, nous, par les ténèbres de ce monde. Vous savez, quand vous êtes dans une pièce éclairée et que vous ouvrez la porte, c'est pas les ténèbres qui rentrent, c'est la lumière qui sort. Elle chasse les ténèbres. Bon, on a la vie de Jésus en nous, Jésus est lumière du monde, on est des enfants de lumière, eh bien ne laissons pas les ténèbres de ce monde nous empêcher de chasser les ténèbres pour voir cette réalité du royaume de Dieu. D'accord. Et en parlant des promesses de Dieu, Jésus a dit, Dieu ou Jésus, Jésus a fait des promesses, Dieu a fait des promesses. Là c'est Jésus qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon. Donc, on le voit pas, il est là, on le sait, dans toute situation il va dire, t'inquiète pas, ne crains pas, te décourage pas, voilà. Ça, c'est ce que Jésus nous dirait. Le problème, c'est qu'on ne l'entend pas souvent. Et là, c'est le deuxième point, il faut avoir une oreille qui entende. Hein, réalité du spirit, du surnaturel au-delà de l'audible. D'accord. Entendre la voix de Dieu. Vous savez, la Bible est pleine de récits où Dieu parle et parfois il y a des manifestations tonitruantes de la part de Dieu, des théophanies. Il y a les éclairs, le tonnerre et tout. Rappelez-vous, lorsqu'il a remis les commandements sur le mont Sinaï, hein, les gens n'osaient pas s'approcher de la montagne. Bon, hein, c'était quelque chose un peu d'affolant. Mais il y a d'autres passages où Dieu va parler en douceur, hein, vraiment dans un doux murmure. Et là, j'ai donné comme illustration, vous voyez, dans 1 Roi 19, vous vous rappelez l'histoire d'Élie, Élie là, qui a défié les prophètes de Baal, qui a fait tomber le feu du ciel sur l'Holocauste, et ensuite qui a égorgé tous les faux prophètes d'ailleurs, mais qui s'est enfui devant la crainte par crainte de Jézabel. Découragé, l'ange du Seigneur est venu le réconforter, il arrive à Horeb, et là, il se réfugie dans une caverne. Et on va prendre ensemble dans ce passage qui se trouve 1 Roi 19. Ça va vous rappeler des souvenirs. Bon, parce que c'est des passages qu'on connaît. 1 Roi 19, on va lire à partir du verset 11. Élie partit de là et se... 1 Roi 19, non, c'est pas ça. 11, 13, voilà. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Dieu était dans le murmure doux et léger. Il n'était pas dans le vent violent, il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu. Et on est dans un monde, nous, qui fait beaucoup de bruit souvent, hein, qui secoue, manifestation, enfin bon, je passe, hein, bon, disons. Et on a besoin, et Dieu aime ceux qui savent se retirer un peu des bruits du monde pour, être à l'écoute de sa voix. Alors, c'est important. Parce que souvent, Dieu va parler d'un murmure doux et léger. Ça peut être un moment de prière, d'adoration, hein, où vous lisez la parole de Dieu, et ça va être... c'est une conviction que Dieu va mettre, une pensée parfois, mais qui s'impose à vous tellement forte que vous savez que c'est Dieu qui est en train de vous parler. Hein, ce n'est pas toujours une voix qu'on entend, mais conviction. Ou un petit détail sur lequel Dieu il met le doigt sur un détail. Ça a l'air de rien, mais ce détail, si tous les jours vous vous y appliquez, vous allez voir que ça va faire des choses, des grands changements. Ouais. C'est important. Bon. Donc, sachez à l'écoute de ce que dit le maître. Et que nous dit le maître? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Important. Donc, soyez attentifs à la voix de Dieu. Et j'ai donné un exemple en 2 Samuel. C'est David. David, il se pose la question, est-ce que je dois aller attaquer les Philistins ou pas? Et Dieu va lui dire, en 2 Samuel, j'ai mis la référence là, 2 Samuel 5, 23, ne les attaque pas de front, contourne-les par leur arrière, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Et quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre le son dans la cime des arbres. Bon, là, faut pas oublier qu'il y avait un contexte de combat, de mouvement de troupes. C'était peut-être pas évident, mais David a prêté l'oreille et quand il a entendu le bruissement dans les arbres, il savait que Dieu était là et il est parti. Il a vaincu les Philistins. Donc, demandons à Dieu de nous faire entendre sa douce voix et ayons donc cette oreille, une oreille de disciple. Que Dieu nous façonne une oreille de disciple, comme d'ailleurs il est dit en Ésaïe 54, l'Éternel Dieu m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et c'est vrai que les disciples, en compagnie du maître, à longueur de journée, ils entendaient ce que disait le maître, ils pouvaient lui poser des questions, ils entendaient les réponses. Et parfois, quand le maître parlait, c'est ceux qui étaient au plus près qui entendaient. Ceux qui étaient loin, des fois, ils n'entendaient pas. Et rappelez-vous le récit de du dernier repas de Jésus. Ces gens qui rapportent la façon dont ça s'est déroulé. Et il y a un détail que Jean nous fournit. on va le lire ensemble en Jean 13, et qui illustre ce que je vais vous dire. Donc, Jean 13, on va lire à partir du verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, donc ces gens-là, était couché sur le sein de Jésus. À l'époque, il n'y avait pas de chaise. Hein. On mangeait donc couché autour de la table. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple s'était penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, Simon, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Seul Jean a entendu la réponse que Jésus a faite, parce qu'il était près de Jésus, il était près du cœur de Jésus, il s'est penché à Jésus, et donc Jésus a parlé, il n'y a que Jean qui a compris, il n'y a que Jean qui a entendu. Ce qui veut dire que si, parfois, il faut être près du cœur de Jésus pour entendre ce qu'il a à nous dire. Il faut vraiment avoir ce cœur à cœur, s'approcher dans une intimité toute proche pour entendre parfois ce que Jésus ou ce que Dieu veut nous dire. Donc, approchons-nous de lui et soyons en paix surtout. Parce que parfois, un péché peut nous éloigner un petit peu. Sachons qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, sachons toujours recevoir le pardon et approchons-nous avec assurance. Le voile est déchiré. On l'a chanté ce matin aussi. Donc, on a cet accès à la présence intime auprès de Dieu, auprès de Jésus. Donc maintenant, posons la question, que te dit Saint-Esprit ? Il faut quand même se poser la question, parce qu'à travers la parole, à travers les événements, à travers tout ce qu'on peut vivre, le Saint-Esprit veut nous parler. Et il peut nous encourager, il peut nous exhorter, il peut nous mettre en garde. Bon, ça dépend des situations. Ou donner une parole à partager avec quelqu'un, qu'on va encourager. Ou encore, et là, des fois on l'oublie aussi, mais demandons au Saint-Esprit de nous donner les dons pour l'Assemblée. Les dons de prophétie, les dons de parole de connaissance, paroles de sagesse. Bon, demandons que le Saint-Esprit nous parle et nous communique les dons. Ensuite, troisième point, c'est au-delà de nos pensées. Eh oui. Il est dit en Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Une autre traduction nous dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. » C'est vrai que le monde cherche vraiment à nous influencer, notamment par les médias, bien sûr. Et on veut nous dicter la façon de faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Bon, le monde, on veut façonner vraiment les gens. Et là, il faut se méfier. Parce que nous, on ne fait pas partie de ce monde, on fait partie du royaume de Dieu. Et rappelez-vous, quand Jésus a inauguré son royaume, la charte des valeurs, c'était les béatitudes. Jésus a fait l'éloge de ceux qui sont pauvres en esprit, de ceux qui sont miséricordieux, de ceux qui sont persécutés. En fait, on est dans un monde où les vraies valeurs que Jésus a apportées sont contraires à celles du monde. Bon, on le sait, on en est conscient. Mais donc, ça veut dire que le jour où on devient chrétien, notre sagesse, c'est la sagesse de Dieu, ça ne va pas être la sagesse du monde. Rappelez-vous ce que Paul dit en 1 Corinthiens 1, 27. Il dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Et il avait écrit quelques versets avant ce passage-là. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas confondu de folie la sagesse de ce monde? Donc Dieu n'a pas la même définition de la sagesse que le monde. Si un jour Dieu vous demande de faire quelque chose, à votre esprit, parfois ça peut paraître une folie, ça peut paraître déraisonnable, ça peut paraître impossible humainement, mais si c'est Dieu qui vous le demande, vaut mieux obéir à Dieu et passer même pour un fou aux yeux des autres, mais plutôt que d'être désapprouvé par Dieu. Ça, c'est quand même important. Et là, j'ai pris l'illustration de Pierre. Le seul à avoir marché sur l'eau, à part Jésus, c'est Pierre. Il y en a beaucoup qui ont essayé de tester leur foi, des pasteurs notamment, qui ont voulu reproduire le miracle, mais ils ont tous coulé au fond de l'eau, évidemment. Bon. Et il y a la tempête, Jésus apparaît, les disciples sont paniqués, et à l'appel de Jésus, Pierre ne va pas commencer à se dire, attention, si je mets le pied dans l'eau, c'est contraire aux lois de la physique, je vais couler et tout. Il a répondu à l'appel de Jésus, s'est pas posé de questions, et il a marché sur l'eau. Il est sorti de sa barque, de ses sécurités, il a marché. Puis c'est à partir du moment où il a commencé à raisonner, il a vu les vagues, les flots, tout, le vent, il a commencé à couler. Donc, en fait, des fois, le miracle va se produire quand on laisse de côté les raisonnements. On fait confiance à Dieu. Et vous savez que Dieu veut nous faire entrer dans son merveilleux. Mais si on fait tout passer par notre raisonnement, on ne va pas y rentrer. Rappelez-vous que Jésus a fait beaucoup de miracles. Les miracles, c'était du jamais vu, du jamais entendu. D'ailleurs, les témoins disaient « Cet homme ne pourrait pas faire ce qu'il fait s'il n'est pas de Dieu. » Eh bien, Jésus va dire, Jean 14, 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je vais au Père, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus est en train d'expliquer, « Je vais remonter vers mon Père. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Ce Saint-Esprit par lequel j'ai fait les miracles, par lequel j'ai agi. Le même esprit va être en vous. Et tout ce que vous allez demander, moi, je serai auprès de mon Père pour obtenir pour vous une réponse favorable. Ça, c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Donc, sachant ça, et c'est Jésus qui a dit, vous ferez ce que j'ai fait, même plus, ayons cette audace, cette autorité de nous emparer des situations avec foi et de réagir en homme et en femme de foi. Apprenons à faire confiance à Dieu. Il peut tout, donc j'ai dit, il est souverain, donc il a des plans parfaits, donc on ne s'inquiète pas. Et apprenons à faire comme Marie, c'est pour ça que j'ai pris l'illustration, parce que Marie, l'ange lui annonce qu'elle va se retrouver enceinte sans avoir de relation sexuelle. Attends, humainement, ce n'est pas possible. Une femme, on lui dit, tu vas te retrouver enceinte. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit, Marie? Eh bien, elle a répondu à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Bon, elle a fait confiance, vous voyez. Mais ça, c'est au-delà de toute pensée humaine raisonnable. Donc, chassons toute pensée qui ne vient pas de Dieu et qui viendrait du malin ou de l'humain ou de notre nature humaine pour nous empêcher d'avancer là où Dieu veut qu'on aille. En fait. Et je rappelle aussi Philippiens 4:8 où Paul dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc c'est important, on doit amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Donc n'ayons qu'une pensée, que veut le maître, obéir au maître, je dirais, et le laisser agir par son Saint-Esprit. Et on sera étonné du résultat. Bon, ça va ? Bon, on a vu au-delà du visible, on a vu au-delà de l'audible, ça va un peu, je vais m'attarder un peu moins. Au-delà des pensées, maintenant, quatrième point, au-delà de nos besoins. Dans son omniscience, Dieu connaît nos besoins. D'ailleurs, quand Jésus enseigne à ses disciples de prier, il commence votre Père sait de quoi vous avez besoin, donc avant d'enseigner à prier, avant que vous le lui demandiez. Alors, pourquoi prier, là? Bon, d'abord, il faut savoir qu'on se situe par rapport au Père qui donne, nous, on est les enfants, mais le Créateur, la créature. Donc, on met les rapports à leur juste valeur, déjà, c'est important. Et en fait, Dieu donne, mais il n'est pas obligé non plus. Tout est cadeau, mais parce que Jésus a payé. Et c'est pour ça qu'entre Dieu et nous, il y a Jésus, au nom de qui on demande et par qui on obtient tout ce qu'on demande. Donc, il faut bien voir, c'est comme ça que Dieu a voulu que ça marche. Bon. Mais il sait d'avance nos besoins, il les connaît. Et Jésus va même dire à ses disciples, tout ce que vous demanderez donc en mon nom, vous l'obtiendrez. Et Paul, emprisonné, va exhorter les Philippiens, vous connaissez ce passage aussi, là, que je vous rappelle à cette occasion, c'est qu'il se dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Là, voyez. Donc, cherchez pas à comprendre, ça surpasse toute intelligence. Eh bien, elle va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je souligne, en Jésus-Christ. Et il le redit d'ailleurs quelques versets après, à la fin de sa lettre, au verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Entre Dieu et nous, il y a Jésus. Il ne faut pas oublier. Pour nos besoins, Hein, merci Jésus, si Dieu répond, c'est grâce à lui. Et Éphésiens 3:20, Paul invite les chrétiens à s'attendre à Dieu au-delà de leurs besoins et au-delà de ce qu'on peut imaginer recevoir. C'est fort quand on réfléchit à ça, parce que souvent on le lit, on sait, mais hein, au-delà, hein, je vous lis, c'est à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, et notez dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. La générosité de Dieu, elle est permanente, elle est pour les siècles des siècles. Donc, ne limitons pas Dieu dans nos demandes. Hein. Ils peuvent tout. Hein. Et n'imaginons pas un Dieu qui va être débordé, un Dieu qui prend dans des réserves limitées pour donner à Pierre Folchard, et puis après il n'y en a plus, ben non, il fallait demander à... Non, non. Hein. Et il n'a pas non plus des urgences prioritaires, toi d'abord, lui après. Non. Non. Pour Dieu, hein, et ça c'est incompréhensible, mais bon, cherchez pas à comprendre, mais c'est comme ça. Chacun, il y a des milliards d'individus, on est unique à ses yeux. Voilà. Et pas un cheveu de notre tête ne tombe. Bon, je regarde Michael, il n'a pas de problème, des fois, sans sa permission. Bon, puis il a donné des noms à toutes les étoiles. Enfin, bon, c'est des choses, et bon. Ça, c'est Dieu. Ça nous dépasse. Bon. Alors, illustration. Hein. Oui, multiplication des pains. Pardon. Bon. On connaît l'événement, une foule nombreuse a suivi Jésus toute la journée, entre parenthèses. Hein. C'était des milliers qui suivaient Jésus. Allez trouver un évangéliste maintenant qui est suivi par des milliers, j'aimerais bien, moi. Bon. Et il les a enseignés, il a guéri des malades, le soir arrive, il a compassion, parce qu'il commence à avoir faim, et l'idée des apôtres, c'est de les renvoyer pour qu'ils aillent chercher des provisions dans les villages avoisinants. Mais Jésus les met au défi, donnez-leur vous-même à manger. Bon, on connaît la suite, à partir de 5 pains et 2 poissons, Jésus va nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est précisé. Mais il y a un détail aussi qui est rapporté par les 4 évangélistes qui racontent cette multiplication des pains, c'est que quand tout le monde a eu mangé à satiété, on a pris les restes et il restait 12 corbeilles. Bon, je ne sais pas ce qu'on a fait des restes, mais ce qui est important de savoir, c'est que devant une multitude affamée, Jésus a répondu et au-delà. Eh oui. Donc, Dieu n'est pas chiche. Hein. Sachons demander et attendons à recevoir ce dont on a besoin et même au-delà. Et un jour, Salomon, plutôt Dieu apparaît en songe à Salomon. Et Dieu lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. C'est un roi, donc chapitre 3. Et Salomon va formuler sa prière ainsi, je vous lis. Veuille donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Et le texte poursuit. Cette demande de Salomon plut au Seigneur, alors Dieu lui dit. Puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pas pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien je vais réaliser ton souhait et de plus, et notez bien le de plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que de toute ta vie, aucun roi ne va t'égaler. Dieu a vu le cœur de Salomon, il a vu les motivations et il y a répondu favorablement et même au-delà. D'accord. Bon, cinquième domaine, ça sera au-delà de nos attentes. Bon, ça, c'était les besoins. Maintenant, nos attentes. Bon. Et ça, c'est une caractéristique, je dirais, qu'il faut souligner, mais il faut la mettre dans le cadre vraiment de, hein, en rapport direct avec l'amour que Dieu a pour nous, en fait. Bon. On ne peut pas concevoir, je dirais, cette immensité, hein, de l'amour que Dieu nous porte. Impossible de mesurer. Vous connaissez ce passage, Éphésiens 3. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. De sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Notez bien, donc, ça dépasse, un amour dépasse toute connaissance et on est invité à être rempli de toute la plénitude. En fait, à nous plonger dedans, hein, et à nous abandonner complètement à l'amour que Dieu a pour nous. Et Romains 8, Paul pose la question, qui nous séparera de cet amour en plus? Et au verset 37, vous connaissez, hein, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Hein, pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Hein, car j'ai l'assurance, et là il y a une succession, il y a ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, enfin, autrement dit, rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Donc c'est parce que Dieu nous aime à ce point, eh bien que quelquefois il a plein de petites attentions pour nous. Vous savez, il n'est pas obligé, mais c'est sa façon de montrer qu'il nous aime. Et il suffit de suivre Jésus là dans ses déplacements. On va prendre d'autres illustrations. Vous savez qu'il y a eu une pêche miraculeuse. Donc au début du ministère de Jésus, quand il appelle ses disciples, Pierre et ses compagnons ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus leur dit, jette ton filet au large. Et on sait que le filet était rempli, que les deux barques elles s'enfonçaient dans l'eau. Bon, ça, c'est la première multiplication de la pêche miraculeuse, si vous voulez. Mais Jean nous rapporte une deuxième pêche miraculeuse. Mais là, c'est Jésus ressuscité qui apparaît à ses disciples. Bon. Et il y a un détail intéressant dans ce récit en Jean 21. C'est que... il est dit, je vous cite au verset 9, « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. » Ça a l'air de rien, mais ça, c'est l'attention délicate de Jésus. Il est ressuscité, il apparaît à ses disciples, ils ont pêché sans, toute la nuit, ils ont rien pris. Bon, il leur fait prendre tellement de poissons, même Jean, il est précis, 153 grands poissons humés. Et le filet s'est pas rompu. Mais surtout, il y avait cette attente qu'il avait préparé du feu, il y avait du pain et des poissons. Et il leur dira, venez manger. Bon, tu n'es pas obligé, mais attention de Jésus. Ça. Et ensuite, Pierre, qui l'avait renié, il ne va pas lui faire de reproches, mais il va lui pardonner et il va ensuite lui confier une mission, paie mes agneaux, paie mes brebis. Vous voyez, ça, c'est l'amour de Jésus pour les siens. Et une autre illustration, c'est Zachée. Zachée, donc ce percepteur qui était mal vu des juifs, parce qu'il avait une mauvaise réputation. Il ne s'attendait pas, le jour où il a grimpé dans l'arbre, que Jésus allait le voir dans son sycomore, qu'il allait s'inviter chez lui, et que lui, en acceptant Jésus chez lui, Zachée ne se doutait pas du tout qu'il allait recevoir le salut, que son cœur allait être changé. Et lui, qui avant profitait de sa situation pour exhorter les gens, il va montrer beaucoup de générosité, il va montrer que sa vie est complètement changée. Bon. Et ça, c'est le plus que Jésus, dans son amour, a apporté à Zachée, que le regard que les gens portaient sur Zachée, c'était un regard de quelqu'un qu'il fallait pas fréquenter. Voyez. Donc, ça, c'est ce côté le plus dans son amour que Dieu a pour chacune de ses créatures. Et puis on pourrait dire aussi, on l'a rappelé en prenant la Sainte Seine, tout est concentré dans la croix, l'amour de Dieu. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui dépasse notre entendement. Que Dieu se fasse mettre à mort par sa créature, pour qu'il nous accorde son pardon. Et un dernier point, donc au-delà de nos possibilités. Et là, c'est aussi important qu'on réfléchisse à ça. Enfin, on le sait, mais pour le redire, comprenez. Zachée, sûrement qu'il s'est dit, si on l'avait dit que Jésus allait s'inviter chez lui, il aurait dit c'est pas possible. Mais oui. Mais avec Jésus, je dirais l'impossible est devenu possible. Un jour, Jésus va dire à ses disciples, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et le contexte, c'est quand il a rencontré le jeune homme riche. Vous savez, ce jeune homme qui voulait savoir que faire pour avoir la vie éternelle. Jésus commence par lui dire, tu observes les commandements et tout. Le jeune, c'est ce que je fais depuis que je suis jeune. Jésus ajoute, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Et on sait que ce jeune homme avait beaucoup de richesses, il est attaché à ses richesses, et il a préféré garder ses richesses et ne pas suivre Jésus. Et c'est là que Jésus va dire, il va employer une image qui surprend, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étonnés diront, qui peut être sauvé? Et Jésus va leur dire, humainement personne, mais Dieu peut tout. J'ai pris l'image, ça c'est au sens littéral du mot. Il y a un autre commentaire qui fait que il y avait une porte à Jérusalem qui s'appelait la porte du chat de l'aiguille, qui était très basse, et le paradoxe, il est plus acceptable que celui-là. Là, ça choque un peu, si vous voulez. Mais peut-être que Jésus, après tout, on peut prendre le côté choquant, mais de toute façon, il y avait un effort à faire pour passer cette porte qui était étroite. De toute façon, un chameau chargé, il fallait enlever le fardeau et tout. Il fallait qu'il s'agenouille. il y a des impossibilités humaines, mais pour Dieu, tout est possible. Parfois, on dit un tel, impossible qu'il puisse se convertir, impossible qu'il puisse changer. Impossible. On a catalogué, mais rappelez-vous, Saul, persécuteur des chrétiens, hein, qui aurait dit qu'un jour il serait terrassé sur le chemin de Damas et qu'il allait devenir le plus grand missionnaire, le plus grand prédicateur du Nouveau Testament. Eh oui. Et pourtant, c'est bien ce que Dieu a fait. Et Paul était conscient de sa faiblesse, en fait. Mais il dira, quand je suis faible, je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et tous les hommes de Dieu, en fait, pourquoi ils ont vu Dieu réaliser à travers leur ministère l'impossible? Parce qu'ils avaient cette foi en un Dieu qui peut tout. Vous savez, demander à Dieu, si on n'a pas cette foi associée à nos demandes, vous savez, c'est accéléré sur votre voiture, mais vous n'avez pas enclenché, vous avez vroom, 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 ça fait du bruit, mais on n'avance pas. Si à la fois, je dirais, c'est le levier de vitesse, on enclenche le bras de Dieu qui va agir, qui va répondre. La foi, c'est bon, il faut embrayer, quoi. Donc c'est quand même, c'est important. Donc ayons cette foi que, nous on demande, et puis avec la foi, on va faire que Dieu il va répondre. Prenez avec moi, Matthieu, le passage là. Il y a un événement aussi qui parle de cette foi là, qui est importante. C'est en Matthieu 17. Matthieu 17. Verset 19. Donc, c'est un homme qui avait apporté aux disciples, donc à son fils, qui était atteint d'un esprit muet. Les disciples n'avaient pas pu le libérer. Donc. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus répond, « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi de là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc il y a quand même il y a une condition, même plus des conditions, je veux dire, pour que cette foi produise des effets. Donc c'est quand même de prier, de savoir jeûner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas nous qui agissons. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Donc, on doit avoir ce Saint-Esprit en nous, on doit le laisser agir. Hein? Donc, du temps dans la prière, des fois dans le jeûne, et en cherchant la face de Dieu, c'est important pour qu'on ait cette plénitude du Saint-Esprit. Hein? Et puis, je dirais, on doit aussi chercher toujours aller au-delà. Parce que quand on se contente du minimum, vous savez, dire que ça suffit, Dieu s'en contentera, là, on est mal parti. Si on n'a pas ce souci de toujours faire au-delà, toujours un peu plus pour Dieu, de passer un peu plus de temps dans la prière, passer un peu plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu, si on se contente du minimum, eh bien, on n'aura pas la plénitude et on ne verra pas justement cette puissance de Dieu se manifester au travers de nous. Donc, donc c'est des choix, il faut faire des choix. Eh bien, c'est bien, on a bientôt terminé, c'est bien. On va revoir donc par rapport au choix, justement. Qu'est-ce qui. Les qualités d'un choix qui est agréé par Dieu. Et ça, on va résumer un peu ce qu'on a vu. On va. Voilà. Voyez. Donc j'ai dit, oui. On vient de le voir. Laisser agir Dieu, c'était donc être rempli de la puissance de Saint-Esprit. Ne pas se contenter du minimum. Et donc faire les bons choix. Donc des choix prouvés par Dieu. Et là. On reprend un petit peu ce que j'ai dit, à Dieu qui agit au-delà de tous ces domaines qu'on a vus. Donc moi, je vous invite à vraiment prier Dieu, de rendre votre cœur capable de saisir l'insaisissable, en fait. Que nos yeux puissent voir ce qui est invisible à nos yeux humains. Que nos oreilles puissent entendre ce qui est imperceptible à nos oreilles humaines. Et de renouveler notre intelligence pour qu'on puisse aller au-delà de nos pensées humaines. De jamais nous limiter dans nos demandes, en fait, en sachant que Dieu peut répondre à tous nos besoins. Et surtout, nous abandonner dans les bras d'amour de Dieu. Vraiment, qui, en fait, il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous et que rien n'est impossible. Ça, c'est important. Oui. Et donc, je terminerai donc, ce survol par une exhortation à entrer dans cette vie de l'esprit, oui, qui symbolisait en Ézéchiel 47 par ce fleuve qui sort du temple. Et le prophète est invité à rentrer dans ce fleuve. Au début, il a de l'eau jusqu'au pied, aux chevilles, après jusqu'au genou, après jusqu'à la taille. Et puis il y a un moment, hop, hyper pied. Là, il faut nager. Il est obligé de nager. Bon. Eh bien, ça symbolise que si on veut vraiment rentrer dans cette vie d'esprit, à un moment, il faut qu'on perde pied. Il faut qu'on perde tous nos appuis humains, qu'on perde nos repères. Il faut se laisser porter par l'eau, par le Saint-Esprit, en fait. Et on doit laisser porter pour gagner le large, en fait. Jésus avait dit à Pierre pour la pêche miraculeuse, « Avance au large et jette ton filet. » Nous, on est invités à avancer au large. On doit aussi être des pêcheurs d'hommes, il ne faut pas oublier. Bon. Avance au large, jette ton filet. Bon. Et c'est Dieu qui va faire le travail, mais, qui va faire la pêche, qui va les remplir. Mais avançons là. Et Dieu va faire le reste, en fait. Donc, il va nous donner, au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances, au-delà de nos pensées, enfin, au-delà de tout. Voilà. J'ai rien ajouté. Mais laissons le Saint-Esprit, quand même, maintenant. Et prions que le Saint-Esprit nous... Chacun dans un domaine particulier. Bon, il y a beaucoup de domaines qui ont été... effectivement abordé. Bon, il y en a qui sont plus peut-être concernés par un domaine que par un autre, mais vraiment, demandons à Dieu de façonner notre cœur ce matin. Quoi. Seigneur, eh bien, on veut se laisser saisir, Seigneur, par ta grandeur, par ton immensité, par tout ce qui nous dépasse, Seigneur, par cet amour qu'on ne peut pas mesurer, Seigneur. On est conscient. On est devant ce Dieu qu'on ne peut pas décrire, Seigneur, mais qui est bien présent. Parce qu'on le sait par la foi, Seigneur, que tu es là. Et on ne veut même pas chercher à comprendre, Seigneur, on ne veut même pas chercher à expliquer ce qu'on ne peut pas expliquer, Seigneur. Mais notre prière ce matin, c'est, eh bien, donne-nous un cœur bien disposé, Seigneur, et surtout, eh bien, de pouvoir rentrer dans cette réalité spirituelle, Seigneur. Et qu'on ait toujours plus de foi, Seigneur. Foi en ta parole, parce qu'elle est la vérité, Seigneur. Foi en tes promesses, parce que tu vas les accomplir, Seigneur. Foi en ton amour, qui est incommensurable, et tu veux vraiment tout ce qu'il y a de mieux pour nous, Seigneur. Foi en ta puissance illimitée, Seigneur. Foi en ta souveraineté. Rien n'échappe à ton regard, à ton pouvoir, Seigneur. Foi en tes projets, parce qu'ils sont merveilleux, et ça, on veut s'en convaincre, Seigneur. Et foi en cette éternité glorieuse que tu mets devant nous, Seigneur, et vers laquelle on est en marche. Donc, Seigneur, fortifie ma foi sur tous ces différents points, Seigneur. Parce qu'on veut aller plus loin, Seigneur. On veut chaque jour, Seigneur, se répéter et se redire que ben, oui, c'est vrai, Seigneur. Parce que tu l'as dit, parce que tu peux tout. Et Seigneur, bien ranime cette espérance qui est dans notre cœur et qu'en toute occasion, Seigneur, on puisse avoir un cœur de disciple, prêt à te suivre là où tu veux nous emmener, Seigneur, sans nous poser de questions. Ouvre vraiment nos yeux, au-delà de l'invisible, ouvre nos oreilles, au-delà de ce qu'on peut entendre, Seigneur. Vraiment, viens nous façonner un cœur qui, par lequel, eh bien, dans lequel tu vas habiter pleinement et ton Saint-Esprit va pouvoir ensuite agir au travers de nous, Seigneur. Et aide-nous à lâcher prise parce qu'on s'accroche un peu trop parfois, Seigneur, à ce qui est humain, à ce qu'on connaît, à ce qu'on possède, à nos moyens, Seigneur. Apprends-nous à lâcher prise, à te faire confiance, Seigneur, et à nous laisser, Seigneur, à nous laisser prendre dans tes bras d'amour parce que tu nous l'étends en permanence. Tes bras, tu nous l'étends et le regard que tu nous portes, c'est un regard d'amour, Seigneur. On a besoin, parfois dans ces temps difficiles, eh bien, d'en être à nouveau convaincu, Seigneur. Viens, Seigneur, et agis puissamment par ton Saint-Esprit dans mon cœur, dans le cœur de tous mes frères et sœurs, dans le cœur de tous ceux qui ont cette foi, qui ne demandent eh bien, qu'à être fortifiés, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Et on te rend grâce et vraiment, comme on l'a chanté ce matin, Seigneur, eh bien, sois vraiment celui qui règne sur nos vies, Seigneur. Parce que toi, seul es digne, Seigneur. Règne dans tous les domaines, Seigneur. Et que ce soit pas seulement un mot, mais que ce soit vraiment une réalité qu'on vive au jour le jour, Seigneur. On te rend grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mmh.